Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois Romain Alléaume, enseignant-chercheur à Télécom Paris. Ses recherches sont centrées sur l'information et la cryptographie quantique et il collabore aujourd'hui au projet d'infrastructure européenne de communication quantique qui a pour but de sécuriser les données et les communications les plus sensibles. Ce podcast sera l'occasion d'aborder sur deux épisodes les défis de l'informatique et de la communication quantique. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle frontière de l'informatique quantique qu'est le passage à l'échelle rendant possibles les applications industrielles. Alors Romain, pour commencer, j'aimerais que tu reviennes au concept. On sait que les technologies quantiques reposent sur des systèmes physiques qui se comportent de façon quantique. Quels sont ces systèmes et en quoi ils ont un comportement différent des systèmes classiques ?
Oui, en fait, la physique quantique, donc, c'est une théorie maintenant qui a un siècle à peu près, et elle explique qu'au niveau microscopique, un atome ou un photon, donc les grains de matière microscopiques, pour expliquer la physique hein, depuis le XXe siècle, on a besoin d'une nouvelle théorie qui explique que ces systèmes, ils peuvent se retrouver en superposition, par exemple. Ils peuvent être dans des états logiques superposés en même temps, donc par exemple... Un photon peut être superposé en passant par un chemin ou par un autre, ou un atome éventuellement pourrait être superposé en position en étant à un endroit ou à un autre de la pièce. Et donc ça, c'est tout ce qui a été postulé pour la physique quantique et qui a été extrêmement fructueux pour décrire la matière dans le XXe siècle. Et les technologies quantiques, l'information quantique, l'informatique quantique. L'idée, c'est d'utiliser ces systèmes maintenant pour traiter l'information. Et une des particularités de ces systèmes du point de vue de l'information, donc c'est ce que j'ai mentionné, c'est la superposition. C'est le fait que donc on peut imaginer un système. Alors si on pousse vraiment la logique très loin, un système physique, donc un atome par exemple, qui serait en superposition à Paris et à Barcelone en même temps, donc dans des endroits extrêmement distants. Et c'est uniquement en l'observant, en regardant où il est, qu'on saurait s'il est à Paris ou à Barcelone. Mais intrinsèquement, le système, il serait à deux endroits en même temps. Il pourrait aussi avoir deux trajectoires en même temps, donc passer par deux chemins en même temps, en superposition. Donc ça, c'est des concepts qui sont au cœur de la physique quantique, la superposition, et qui vont guider en fait ce qu'on peut utiliser pour ces systèmes pour traiter l'information. Et donc ça, c'est des propriétés qu'on voit pas du tout pour les systèmes classiques. Nous, quand on a une balle de tennis, une voiture, elle est à un endroit précis, elle a une trajectoire précise, et pas une superposition de trajectoires. Et c'est la possibilité de superposer des trajectoires, donc qui est précisément quantique, qui va permettre ensuite d'imaginer donc comment on peut faire des algorithmes du traitement de l'information, de la cryptographie, des moyens de sécuriser l'information qui sont différentes de ce qu'on a aujourd'hui avec les technologies classiques.
Alors, on entend beaucoup parler de l'avènement de l'ordinateur quantique, qui est en quelque sorte l'application phare du quantique. Romain, est-ce que tu peux nous dire où on en est et si on s'en rapproche, ou au contraire si son usage concret pour des applications industrielles n'est pas encore pour demain ?
L'ordinateur quantique, c'était une idée dans les années 80. Ça a commencé à devenir... des petites réalisations, hein, de quelques qubits, à partir des années 2000, on commençait à avoir des systèmes avec des ions, avec des atomes, avec des photons, où on pouvait les mettre en superposition et voir que potentiellement, ça marchait toujours. Et on pouvait faire des publications, mais on pouvait pas vraiment faire des calculs intéressants. Et puis là, depuis quelques années, depuis 3, 4 ans, 5 ans peut-être, on est rentré dans une nouvelle ère où on peut commencer à fabriquer des systèmes quantiques complexes, avec une centaine de particules, ça peut être une centaine d'atomes, comme la start-up Pascal, donc, qui est localisée à Massy, juste à côté de Télécom Paris, avec qui on travaille notamment pour l'enseignement. Et donc on bascule dans une ère de la complexité, finalement. On peut, avec des systèmes quantiques, aborder des questions complexes qu'on pourrait potentiellement pas aborder avec un ordinateur classique. C'est une frontière qu'on appelle l'avantage computationnel ou la suprématie quantique, donc, qui est une question au cœur, parce que effectivement, une frontière, c'est éventuellement d'avoir une machine quantique qui pourrait faire des choses qu'on ne peut pas faire classiquement. Et on ne sait pas encore exactement trancher si on a franchi cette barrière, c'est encore disputé, mais on est vraiment, c'est une question qui est au cœur de ce qu'on peut faire actuellement avec les systèmes d'aujourd'hui, qui ont donc 50 à 100 particules, mais qui sont très bruités.
Je t'arrête avant que tu ailles plus loin pour que tu me précises ce que veut dire bruité. Ça signifie de mauvaise qualité, j'imagine.
Donc typiquement, un ordinateur quantique, il est un peu comme un ordinateur classique. Il est fabriqué avec des portes logiques. Donc c'est un ensemble d'instructions où on dit au qubit, transforme le 0 en 1, ou on fait une rotation sur les qubits, on fait des opérations logiques sur les qubits. Et un qubit bruité, c'est quand l'opération logique qu'on fait, elle n'est pas parfaite. Donc si on veut transformer un qubit de 0 en 1, bah, des fois, il va rester dans l'état 0. Ou il va se transformer en autre chose. Et quand on enchaîne, du coup, il y a des erreurs. Et plus on fait des portes qui ont des erreurs, plus au final, le résultat du calcul va devenir complètement bruité, complètement aléatoire. Et il n'y aura plus du tout d'informations là-dedans. Et donc c'est ça et aujourd'hui, on est dans ce régime-là où les ordinateurs quantiques font typiquement 1%. À chaque fois qu'on fait une opération, ils font une erreur une fois sur 100. Ça veut dire que dès qu'on fait une centaine d'opérations, il n'y a plus rien, plus d'informations. Et donc on est limité à des calculs quantiques très petits. Ce qu'on sait depuis les années 80, où on avait déjà les premiers algorithmes quantiques, c'est que si on a à peu près quelques centaines, un millier de qubits parfaits, donc c'était ce qu'on imaginait au début, on peut vraiment basculer sur des utilisations, par exemple pour la cryptographie, qu'on ne pourrait pas réaliser classiquement. Donc aujourd'hui, on a plutôt 50 à 100 qubits très bruités, qui sont équivalents en fait à peut-être quelques qubits parfaits, et encore, on ne sait pas encore les fabriquer. Pour les fabriquer, il faudrait faire ce qu'on appelle la correction d'erreur, c'est utiliser plein de qubits brutés pour fabriquer un qubit parfait. Et on pense aujourd'hui que le nombre de qubits brutés qu'il faut utiliser avec les qubits d'aujourd'hui, c'est à peu près un millier. Donc il y a à peu près un facteur 1 millier entre le nombre de qubits brutés et le qubit parfait. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore capable de faire des qubits parfaits, mais on sait déjà que si on avait des qubits parfaits, si on en avait quelques centaines, un millier, on pourrait donc réaliser tout un ensemble de tâches qui sont complètement hors de portée des ordinateurs actuels et qui sont utiles.
Tu disais qu'on ne savait pas à l'heure actuelle si on avait franchi cette nouvelle frontière. Mais alors, quelles seraient ou seront du coup les applications concrètes des ordinateurs quantiques avec des qubits parfaits ?
Parmi les applications qui paraissent les plus crédibles, y compris à moyen terme, c'est-à-dire même peut-être avec les qubits brutés qu'on a aujourd'hui, et avec des choses qui ne seraient pas purement des ordinateurs, mais des simulations quantiques, on ne ferait pas vraiment un calcul avec des portes. Il y a des façons un peu plus relaxées de faire un calcul quantique. Donc les applications premières, ce serait de simuler des systèmes physiques complexes, donc par exemple des solides, la matière condensée, de comprendre la structure des supraconducteurs à haute température, pourquoi ils sont supraconducteurs à cette température-là, ce qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui avec la physique actuelle et les ordinateurs classiques pour lesquels on fait des simulations. On peut aussi envisager donc des applications pour la chimie. La chimie, c'est une réaction chimique, c'est en fait un ensemble de particules quantiques qui interagissent, mais dès qu'on a plein de particules quantiques, ça devient très très vite extrêmement complexe à simuler, à nouveau avec un ordinateur classique. Donc c'est déjà un grand domaine. La chimie computationnelle se fait avec des super ordinateurs. Donc c'est un domaine important de la chimie de prédire les réactions chimiques avec des ordinateurs, mais on est limité par le fait que les réactions chimiques sont quantiques et donc il y a ce phénomène de superposition et d'explosion de la complexité. Et finalement, si on avait un ordinateur quantique ou un système quantique qui pouvait se comporter comme la réaction chimique, on pourrait, en faisant évoluer le système quantique, prédire les résultats des réactions chimiques et donc éventuellement faire de l'ingénierie moléculaire, chimique, pour fabriquer des médicaments, fabriquer aussi des matériaux. Et donc, il peut y avoir des applications. Par exemple, un des grands problèmes aujourd'hui en chimie industrielle, c'est la fabrication d'engrais, qui est extrêmement coûteuse en énergie. Et on peut envisager qu'un ordinateur quantique, quand il sera capable, ce n'est pas encore le cas, d'être plus performant qu'un ordinateur classique pour prédire les réactions chimiques et les évolutions. Donc on pourrait imaginer d'utiliser des ordinateurs quantiques donc, pour fabriquer des nouveaux engrais ou des nouvelles façons de synthétiser les engrais.
Tu m'as également parlé, quand on a préparé ce podcast, du fait que l'informatique quantique pouvait aussi nous aider à mieux comprendre les niveaux d'énergie des matériaux et du coup envisager des solutions moins énergivores. Est-ce que tu penses que le quantique pourrait être utile dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Tout à fait. Donc il y a deux niveaux en fait où on peut envisager un apport des technologies quantiques. Donc comme je l'ai expliqué, ça peut être de faire des synthèses chimiques qui soient beaucoup moins énergivores. Et donc de baisser pour un ensemble de processus industriels qui demandent beaucoup d'énergie, de baisser le coût énergétique en trouvant des meilleurs chemins grâce à la simulation. Puis après, il y a un autre versant, c'est que c'est plutôt qui est complètement différent, mais c'est que le numérique coûte et de plus en plus d'énergie, est très gourmand en énergie. Le numérique aujourd'hui, il est classique. Mais essentiellement, un ordinateur quantique, en réduisant la complexité, donc le nombre d'opérations qu'il faut pour faire une opération, va avoir tendance, alors c'est pareil, c'est un domaine d'étude, mais va avoir tendance à dépenser moins d'énergie pour faire le même calcul. Et donc, pour, on peut imaginer aussi pour des catégories de calculs, le jour où on aura des ordinateurs quantiques, des grands ordinateurs quantiques, peut-être dans le cloud, ça pourrait être des façons de dépenser moins d'énergie pour traiter l'information, pour un grand nombre de tâches qui peuvent aller. Alors, donc des problèmes d'optimisation, qui sont des problèmes transverses hein, aujourd'hui pour la recherche opérationnelle, qui pourraient être résolus par des ordinateurs quantiques, à des problèmes donc pour la cryptographie, mais aussi le machine learning, où on a effectivement des besoins de traiter des grands volumes de données avec des algorithmes linéaires, où on peut trouver des équivalents quantiques qui permettent d'accélérer ces problèmes.
Oui, mais tu disais qu'on ne savait pas encore à l'heure actuelle si on avait franchi cette nouvelle frontière. Alors concrètement, j'ai envie de te demander, c'est pour quand ?
Les technologies ont fait un bond hein, depuis les années 2000, mais ce bond, il a atteint une frontière critique il y a, disons, 5 ans. On atteint cette frontière de la complexité. On sait pas encore, on n'a pas vraiment encore dépassé le nuage. On ne sait pas exactement, en termes de traitement de l'information, ce que ça permet de réaliser. On sait que voilà, si on avait des systèmes encore beaucoup plus perfectionnés, ce serait radical. Et aujourd'hui, on peut se demander si les systèmes qu'on a déjà permettent de faire quelque chose de nettement mieux que le classique. Et on ne sait pas encore si on est vraiment franchi cette frontière, mais on est en plein dans cette frontière qui est passionnante. Donc il est possible que ça se confirme et que donc il y a déjà plein d'entreprises hein, qui travaillent sur ces directions-là, qui explorent l'avantage quantique computationnel pour des tâches d'optimisation financière, par exemple de calculs financiers, donc optimisation de portefeuille. C'est des calculs mathématiques pour lesquels on peut utiliser l'algorithmique quantique. Des problèmes d'optimisation, des problèmes donc de matière condensée. Donc il y a déjà des problèmes de machine learning. Donc il y a déjà plein d'entreprises qui se lancent dans cette direction-là. Il est pour la chimie également. Hein, c'est aussi un grand domaine. On n'est pas sûr que bon, il y a des doutes sur le fait que le hardware soit suffisamment performant pour vraiment avoir un avantage. Mais le hardware progresse. Et en explorant aussi conjointement des applications avec du hardware, c'est aussi une façon de progresser sur l'algorithmique et sur le mapping entre l'algorithmique et donc les applications et le hardware.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce premier épisode sur l'informatique quantique vous aura intéressé. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons aussi communication et cryptographie quantique, toujours en compagnie de Romain Alléaume. Thank you.